Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 17h30 TU du mardi 30 avril 2019. Jacques Aristide et Raissa Girondet en votre compagnie. Pour Le Monde aujourd'hui, voici les titres.
Au Nigeria, 21 personnes ont été tuées dans une attaque de Boko Haram dans un village du nord-est du pays.
En Algérie, l'ex-premier ministre Ahmed Ouyaya, entendu dans des dossiers de fraude par le parquet d'Alger.
On reviendra sur la marche contre l'esclavage dans les rues de Nouakchott, en Mauritanie.
Aujourd'hui, de plus en plus, les Mauritaniens prennent conscience de la situation déplorable dans laquelle vivent les ratés.
Au Venezuela, Juan Guaido revendique un soutien d'une partie de l'armée. Caracas crie à une tentative de coup d'État.
Ici, aux États-Unis, nouvelle mesure pour contrer l'immigration. Le président Donald Trump ordonne à son administration de rendre payantes les demandes d'asile.
Vous retrouverez également l'actualité économique et la page des sports, mais tout d'abord le journal.
Dans le nord-est du Nigeria, les djihadistes ont tué 21 personnes et incendié des maisons dans un village de l'État d'Adamawa hier soir. Nathalie Barge.
Les assaillants sont arrivés à bord de 4 pick-up et de plusieurs motos lundi soir à Kouda, dans le district de Madagali. Ils ont ouvert le feu sur les habitants, faisant 21 morts, selon des villageois. Ils portaient des tenues militaires et des turbans, d'après un témoin qui précise qu'ils ont pillé les réserves de nourriture avant de mettre le feu à des maisons. De nombreux résidents ont quitté le village par crainte d'une nouvelle attaque, alors que circulent des rumeurs selon lesquelles les assaillants seraient toujours dans les environs. Kouda est situé près de la forêt de Sambisa, bastion des djihadistes. Les localités de la région sont régulièrement frappées par Boko Haram. Ces combattants avaient pris le contrôle d'une partie du territoire avant d'être chassés par la force multinationale conjointe composée de soldats nigérians, tchadiens, nigériens et camerounais.
Toujours au Nigeria, à Mohamed Aboubakar, président de la Commission universelle pour l'éducation, et sa fille ont été enlevés dans les environs de la capitale fédérale Abuja par des hommes armés qui ont abattu leur chauffeur. Ils ont été victimes d'une embuscade sur la route reliant Abuja et la ville de Kaduna, à environ 190 km plus au nord.
Au Bénin, les principaux responsables de l'opposition, dont Nicéphore Soglo et Thomas Boniaï, lancent un ultimatum de 24 heures au président Patrice Talon pour annuler les législatives de dimanche dernier. Il lui demande en outre de tirer tous les enseignements de la faible participation allant, selon les premières estimations données par la société civile, de 1% à 63% selon les bureaux de vote. Le Bénin est toujours dans l'attente des résultats des législatives où l'opposition n'était pas représentée. Nous y reviendrons dans la partie magazine.
L'ancien premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a été entendu ce mardi environ 5 heures durant par le parquet d'Alger dans des dossiers de dilapidation de fonds publics. Les précisions avec Irénée Herman Umbu.
Ahmed Ouyaya, 4 fois premier ministre depuis 1995, a quitté le tribunal de Sidi Mohamed dans le centre d'Alger sans faire de déclaration. Il s'est engouffré dans une voiture qui a quitté les lieux en trombe sous les cris de manifestants hurlant voleur. Il n'était pas possible dans l'immédiat de savoir s'il a été inculpé ou s'il fait ou non l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire. Rassemblés depuis le milieu de la matinée devant le tribunal, des dizaines de manifestants ont appelé à emmener Ouyaya à la prison de El Arrache, où sont incarcérés 5 hommes d'affaires placés en détention provisoire depuis début avril. Ils doivent tous rendre des comptes, peut-on lire sur des pancartes brandies par des manifestants. Hier, le ministre des Finances, Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque centrale entre 2016 et fin mars, a été lui aussi entendu au tribunal, mais en est sorti libre.
Au Soudan, le principal groupe de la contestation a appelé aujourd'hui à une marche d'un million de manifestants d'ici 2 jours, après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef, Abdel Fattah Bourhan, dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril. Signe de tension grandissante entre les deux camps, l'un des chefs de l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, a accusé les militaires de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple.
Le Soudan du Sud voisin a engagé des lobbyistes américains, parmi lesquels un ancien ambassadeur au Kenya, pour faire annuler les sanctions américaines visant certains de ses dirigeants. Le cabinet aura pour mission de faire bloquer la création d'un tribunal chargé de juger les responsables des exactions commises depuis le début de la guerre civile en 2013. Le contrat consultable sur le site du ministère américain de la Justice porte sur un montant de 3,7 millions de dollars.
En République démocratique du Congo, la propagation d'Ebola continue dans l'est du pays. Les autorités sanitaires ont annoncé avoir enregistré un nombre record de 26 décès pour la seule journée de dimanche dans la province du Nord Kivu. C'est la première fois qu'on atteint ce chiffre, a déclaré le ministère de la Santé depuis le début de l'épidémie. Au total, il y a eu 957 décès.
En Guinée, des heurts ont éclaté dans deux villes du pays, Kankan et Sangaredi, entre partisans et opposants à un troisième mandat du président Alpha Condé. D'après des témoins, on y compte des blessés et des arrestations. Alpha Condé, dont le deuxième mandat s'achève en 2020, a souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats sur le continent.
En Mauritanie, des milliers de personnes, dont des représentants du parti au pouvoir, ont participé hier soir à Nouakchott à la marche annuelle des Haratines, les descendants d'esclaves qui dénoncent des discriminations. Les leaders de l'opposition étaient aussi au rendez-vous pour cette sixième marche annuelle qui vise à dénoncer la persistance des formes d'esclavage dans ce pays. Nous y reviendrons dans notre parti magazine.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain a ordonné à son administration de rendre payantes les demandes d'asile. Donald Trump demande également à son administration de gérer les dossiers en 180 jours maximum. Abdourahmane Dia.
La circulaire présidentielle demande aux responsables américains en charge de l'immigration de révoquer les permis de travail des migrants ayant reçu des ordres d'expulsion définitifs. Cette annonce a été faite au moment où Donald Trump dénonçait sur Twitter des lois américaines sur l'immigration qu'il a décrites comme étant laxistes, inefficaces et dangereuses. M. Trump veut aussi faire payer les demandeurs d'asile quand ils déposent des demandes de permis de travail et interdire aux personnes entrant ou essayant d'entrer aux États-Unis de manière illégale d'obtenir des permis de travail temporaires avant que leur demande d'asile ne soit approuvée. Le gouvernement est également en train d'étudier les moyens de réduire le nombre d'immigrants qui restent aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Les démocrates accusent le président d'inciter à la haine à travers son discours sur l'immigration, mais l'administration Trump insiste que les États-Unis sont un pays de droit, mais aussi de loi.
Toujours aux États-Unis, Donald Trump et les démocrates se sont mis d'accord sur un programme de dépenses d'infrastructures de 2 000 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'a annoncé ce mardi le leader de l'opposition au Sénat, Chuck Schumer, à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche. D'après lui, c'est un très bon chiffre. Ces investissements porteront notamment sur les routes, les ponts, les ressources énergétiques et l'Internet à haut débit.
Et Washington qui affiche ce mardi son soutien à l'opposant vénézuélien Juan Guaido qui a revendiqué le ralliement de soldats depuis une base militaire de Caracas. C'est aux abords de cette base qu'ont éclaté des échauffourées entre manifestants et forces loyalistes au président Nicolas Maduro. Claire Morin-Gibourg.
C'est sur Twitter que Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, s'est exprimé. Aujourd'hui, le président par intérim, Juan Guaido, a annoncé le début de l'opération Liberté. Le gouvernement américain soutient pleinement le peuple vénézuélien dans sa quête de liberté et de démocratie. Le vice-président américain Mike Pence a lui aussi réaffirmé son soutien sans faille à Juan Guaido. « Nous sommes avec vous », a-t-il tweeté. L'Amérique sera avec vous jusqu'à ce que la liberté et la démocratie soient rétablies, a-t-il ajouté. Le ministre de la Défense du Venezuela, le général Vladimir Padrino, a rejeté mardi sur l'opposition la responsabilité d'un éventuel bain de sang. Il a lancé cet avertissement dans un discours en présence du haut commandement militaire, réitérant son soutien au président Nicolas Maduro.
Les églises catholiques au Sri Lanka vont célébrer ce dimanche des messes publiques sous haute surveillance, deux semaines après les attentats de Pâques qui ont tué 253 personnes dans trois églises chrétiennes et trois hôtels de luxe.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Nigeria déploie une technologie satellite pour traquer les passeurs de pétrole qui exploitent des canalisations et siphonnent le brut par des tuyaux en caoutchouc dans des barils à bord de petites embarcations. Pour les dénicher, le pays a fait appel au français Kepler qui, 24 heures sur 24, va enregistrer des trajets et des modifications du tirant d'eau des navires. Le vol du pétrole fait perdre au Nigeria un minimum de 100 000 barils par jour, soit 3 à 8 milliards de dollars par an. En Mauritanie, les médecins de la localité de Zuirat ont manifesté hier pour demander l'application du protocole d'accord signé avec le ministère de la Santé. Selon le mensuel Les Mauritanies, les contestataires reprochent à leur ministère de tutelle de ne pas respecter ses engagements, notamment l'augmentation de 50% des salaires du mois d'avril, mais aussi le non-paiement depuis 3 mois des indemnités d'éloignement et celles du risque suspendues depuis 2016. Pour terminer, la reprise économique se poursuit en Afrique subsaharienne avec une croissance qui devrait grimper à 3,5% en 2019 contre 3% en 2018, selon les prévisions semestrielles du Fonds monétaire international publiées à Dakar. Ce chiffre global masque toutefois une disparité importante entre deux groupes de pays. Dans les 24 pays dont l'économie repose essentiellement sur les ressources naturelles comme le pétrole et les mines, la croissance devrait rester anémique. L'autre groupe, celui des pays pauvres en ressources naturelles à l'économie plus diversifiée, devrait en revanche continuer d'enregistrer une forte croissance d'environ 6,3% en moyenne en 2019 et 2020, se félicite le FMI.
Et maintenant, pour un résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Ligue des champions pour démarrer, l'Ajax veut poursuivre sur sa lancée contre Tottenham.
Oui, le rendez-vous c'est tout à l'heure à 19h temps universel. Pour cette demi-finale aller, la planète foot a les yeux rivés sur la jeune garde de l'Ajax d'Amsterdam qui se déplace à Londres. Pour affronter les Spurs et pour battre Tottenham, il faudra que la jeune et brillante équipe néerlandaise maintienne le niveau de jeu dont il a fait preuve face au Real Madrid, mais aussi face à la Juve. Les deux équipes ont mis fin à de longues attentes pour arriver à ce stade. L'Ajax a disputé 8 demi-finales de Coupe d'Europe, dont la dernière en 1997. Tandis que les Spurs n'ont plus joué à ce niveau, Jacques, depuis 57 ans et leur première saison de compétition européenne.
Bagassi, toujours en demi-finale aller de Ligue des Champions, demain Barcelone face à Liverpool.
Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler une finale avant la lettre. Le FC Barcelone de Lionel Messi et le Liverpool de Mohamed Salah et Sadio Mané s'affrontent donc demain au Camp Nou. C'est un classique européen qui accouchera d'un grand favori pour la finale de Madrid. La confrontation entre le Barça et Liverpool est un choc d'habitude du football européen. Une présélection sans pitié entre prétendants au sacre le 1er juin prochain au stade Metropolitano. Sur la pelouse barcelonaise, 10 CN sont face à face, 5 pour chaque club, avec un 6e trophée à portée de crampon pour les Catalans, sacré pour la dernière fois en 2015 ou pour les Reds finalistes l'an dernier. Bref, Jacques, cette demi-finale entre ténors n'a pas de favori désigné.
Également dans l'actualité sportive, Bagassi, suspension des activités de la Ligue soudanaise de football.
Oui, une décision de la SFA, la Fédération soudanaise de football, pour des raisons, dit-elle, d'ordre sécuritaire. Les manifestations, il faut le dire, continuent toujours dans les rues de Khartoum, près d'un mois après la chute du président Omar El-Béchir et la prise du pouvoir par les militaires. Cette décision intervient aussi après l'agression physique la semaine dernière d'un arbitre par des joueurs et supporters lors d'un match d'El Merrekh, l'un des grands clubs du Soudan.
Et puis, Bagassi, les Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles devraient coûter 6,9 milliards de dollars.
Oui, c'est le budget présenté par les organisateurs des JO d'été de Los Angeles, un budget de 6,9 milliards de dollars qu'ils promettent de ne pas dépasser. Ce montant, Jacques, plus élevé que les 5,3 milliards de dollars annoncés il y a 2 ans lors du processus de candidature, tient compte de l'inflation probable au cours de la prochaine décennie.
Merci bien, Bagassi Koura.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure de maintenant de passer à notre segment magazine dans le monde aujourd'hui. Raïssa Girondin et Jacques Aristide, toujours avec vous.
En Afrique du Sud, les élections générales sont prévues le 8 mai. Il y a 25 ans, se tenaient les premières élections multiraciales de 1994, à l'issue desquelles Nelson Mandela a été élu premier président noir du pays. Mais un quart de siècle plus tard, les espoirs d'une partie de la population noire ont été déçus et des inégalités profondes continuent de diviser la société sud-africaine. Reportage de notre correspondante Patricia Huon dans le township d'Alexandra à Johannesburg.
Avec ses cabanes de tôle, ses ruelles défoncées et sa misère apparente, le township d'Alexandra se trouve juste à côté du centre des affaires de Johannesburg, ses immeubles clinquants et ses belles villas. L'apartheid est tombé, mais des inégalités persistantes divisent la société sud-africaine. En 1994, les premières élections multiraciales suscitaient d'immenses espoirs. À l'époque, Patience avait à peine 2 ans. 25 ans plus tard, elle exprime sa désillusion.
Regardez où on vit. Les toilettes communes, pas de maison correcte. Je n'ai qu'une seule pièce. Je survis ici avec mes 6 enfants. Pas de travail. Nous n'avons rien. Pas d'argent.
À l'approche de l'élection générale qui se tiendra le 8 mai, le Congrès national africain, l'ANC, défend son bilan et promet de lutter contre la corruption qui ronge le parti. Banele Sankosi, secrétaire général de l'ANC à Alexandra.
Rien qu'à Alexandra, nous avons construit 11 300 maisons. Les Sud-Africains peuvent voir que l'ANC est prête à se corriger et à demander des comptes à ses membres. C'est vers ça que nous allons.
Koutsom Anjane est né en 1994. Il fait partie de cette génération sud-africaine qui n'a pas connu l'apartheid.
Mon père et ma mère m'ont dit qu'ils étaient heureux quand ils sont allés élire Mandela comme président, parce qu'il y avait la promesse que leur vie allait devenir meilleure.
Aujourd'hui, l'étudiant milite au sein de l'EFF, les combattants pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale qui séduit les déçus de la nouvelle Afrique du Sud.
Notre peuple continue de souffrir, d'être exclu de l'économie. Nous ne sommes toujours pas propriétaires des terres.
Des progrès ont été accomplis, des barrières sont tombées, une certaine mixité. La cité raciale s'est installée, au moins dans les grandes villes. Le gouvernement a construit des maisons, étendu l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Une classe moyenne noire a vu le jour. Mais 10% de la population sud-africaine possède encore plus de 90% des richesses du pays. Patricia Huron, Johannesburg pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Mauritanie, des milliers de personnes ont participé hier à la marche annuelle des Haratines, les descendants d'esclaves qui dénoncent des discriminations. Les leaders de l'opposition, aussi bien que des représentants du parti au pouvoir, étaient au rendez-vous pour cette 6e marche qui vise à critiquer la persistance de formes d'esclavage dans ce pays. Pour nous en parler de la cause des Haratines, Morgane Guerriec a joint Baya Touré, secrétaire général du Parti radical pour une action globale.
Les Haratines, c'est cette communauté noire d'ascendance africaine, mais elle est composée d'esclaves, d'anciens esclaves de la communauté Maure.
Les manifestants dénoncent l'exclusion des Haratines et la précarité à laquelle ils font face. Pourriez-vous nous décrire leurs conditions de vie?
Les populations qui vivent dans les grandes villes, dans la périphérie, dans les bidonvilles, dans l'insalubrité, n'ont pas accès aux services de base, à l'eau potable, aux établissements scolaires, à la santé. Et dans les campagnes, quand ils sont en statut d'esclaves, ils s'occupent des champs et des animaux de leur maître. Et quand ils sont libres, ils ont quelques petits locaux de terre qu'ils cultivent avec beaucoup de difficultés, des changements climatiques qui fait que les travaux champêtres ne sont plus très rentables. Donc ils vivent dans la précarité, dans la pauvreté et, comme je l'ai dit tantôt, dans l'ignorance parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation.
Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation pour ceux qui ne sont pas esclaves?
Parce que l'école coûte cher aujourd'hui, donc les pauvres n'y ont pas place.
En dehors des Haratines, qui sont donc les victimes, comment est-ce que la question est perçue par l'ensemble des Mauritaniens?
Aujourd'hui, de plus en plus, les Mauritaniens prennent conscience de la situation déplorable dans laquelle vivent les Harafis. Quand vous voyez cette marche, c'est presque tous les représentants de toutes les communautés mauritaniennes qui se retrouvent, qui sont solidaires de ces Harafis et qui voudraient que les choses changent.
L'élection présidentielle est prévue pour le 22 juin. La question de l'esclavage fait-elle partie des enjeux de ce scrutin?
Mais bien sûr, la question de l'esclavage est au cœur du débat. Les Harafis aujourd'hui représenteraient près de 45% de la population mauritanienne. C'est une grande partie de la population qui est concernée par cette question.
Est-ce qu'ils sont nombreux à se déplacer aux urnes?
Oui, ils sont nombreux. Nous avons vu ces deux dernières décennies des candidats Harafis occuper la tête de grandes municipalités telles que Ouagadougou, Zouérat, telles que Sidibadi. Donc les Harafis aujourd'hui sont conscients de leur nombre, sont conscients de leur poids électoral et se déplacent massivement pour voter.
Baya Touré, secrétaire général du Parti radical pour une action globale. Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel.
Le monde au féminin.
Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous.
Le monde au féminin.
Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Ultimatum pour le chef de l'État béninois. L'opposition donne 24 heures à Patrice Talon pour annuler les élections législatives du 28 avril. Les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, appellent les Béninois à prendre leurs responsabilités pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Le compte-rendu de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adambé.
C'est depuis le siège national de la résistance que l'opposition a exigé l'annulation des législatives qui, selon elle, jettent de l'opprobre sur la démocratie. Selon la déclaration lue par l'ancien président Nicéphore Soglo, Patrice Talon ferait mieux de répondre aux exigences de l'opposition s'il ne veut pas écourter son mandat à la tête du pays.
Qu'il renonce sans délai à la confiscation du pouvoir législatif, sinon il finira par son mandat. Il faut être très clair là-dessus. Alors, nous disons qu'il renoue le dialogue avec l'ensemble de la classe politique à l'effet de trouver des solutions consensuelles pour la tenue effective des élections législatives totalement inclusives dans un climat démocratique apaisé.
Pour l'ex-président Yahi Bouni, il est impossible que son successeur soit détenteur de tous les pouvoirs jusqu'aux législatives qui assurent le contrôle de l'action gouvernementale.
C'est inacceptable pour nous. Je le dis, j'ai pris toutes mes responsabilités. Le peuple a refusé la dictature. Le peuple exige le retour de notre démocratie. Fondamentale pour nous. Une question de vie ou de mort.
Le directeur de la communication de la présidence, Wilfred Léandron, dit dans une déclaration, a expliqué que le processus électoral, malgré les intimidations à respecter les règles de la République et que l'opposition serait seule responsable de la violence prônée.
Il faut donc laisser l'opposition responsable de ses menaces, de ses prétentions. Le peuple béninois observe très bien et voit qui sont ceux qui sont les promoteurs de la violence, du désordre dans le pays. Et à la limite, il faut bien convenir que s'il y a des antidémocrates, c'est évidemment ceux qui refusent de respecter les lois qui, face à un président légitime, se comportent de façon à dire qu'ils vont écourter son mandat, qu'ils vont lui accorder le pardon.
Mardi matin, les observateurs de l'Union africaine ont déploré les actes de violence et le faible taux de participation lors du scrutin. Ils ont aussi regretté la mort de deux personnes tuées dimanche. Ils ont invité les acteurs politiques à recourir à la paix pour limiter les dégâts. Du Cotonou, je n'ai plus à attendre pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les innovateurs kényans misent sur les technologies numériques pour attirer les jeunes vers une agriculture dominée par une population vieillissante, avec une très grande pénétration de la téléphonie mobile. Selon les dernières données de l'Autorité des communications du Kenya, le téléphone portable s'avère un outil important de vulgarisation dans les régions où de tels services ne sont pas disponibles. Reportage de Sarah Kimani, c'est un récit d'Arzuma Compaoré.
En tant que jeune fille du centre du Kenya, Penina Wanja a constaté elle-même le défi que cela représente d'élever du bétail sans l'aide d'un professionnel.
J'ai moi-même grandi dans une ferme. Ma mère avait deux vaches, plutôt mal entretenues. Celles-ci nous donnaient deux tasses de lait et on pouvait les traire à tout moment.
En tant qu'agent de vulgarisation en exercice, Wanja a remarqué un manque d'informations qui forçait les agriculteurs à tâtonner avant de se rabattre sur des séries d'essais et d'erreurs dans leurs activités agricoles quotidiennes. Résultat, une faible productivité.
C'est une lacune que j'ai constatée après avoir examiné les statistiques et la nature du terrain. Notre gouvernement a fourni un agent de vulgarisation à près de 4000 agriculteurs, ce qui fait que ces services essentiels sont réellement nécessaires.
C'est alors qu'elle a créé DigiCow, une application de téléphonie mobile offrant aux agriculteurs des conseils d'experts avec la possibilité de tenir des registres à jour. Stanley Kamo était parmi les premiers utilisateurs de l'application. Un an après le lancement de DigiCow, Kamo se dit satisfait de l'augmentation de la production de lait, de la meilleure santé de son troupeau et de la meilleure organisation de sa ferme. L'application permet de maintenir vos registres à jour, par exemple pendant la saison de l'accouplement, puis de savoir quand votre vache va mettre bas. Mais autrefois, nous devions écrire toutes les dates et effectuer un compte à rebours. Selon la Banque mondiale, 80% de la population du Kenya est composée de petits agriculteurs. DigiCow est un exemple de la façon dont la technologie peut être utilisée pour combler le manque de connaissances dans le secteur. Selon Bosnia Kolk, expert en information et communication à Nairobi, c'est également un moyen pour encourager les jeunes chômeurs kényans à s'intéresser à l'agriculture.
La recherche montre que la moyenne d'âge d'un agriculteur kényan est de 60 ans. Nous avons donc besoin d'une philosophie basée sur l'esprit. Nous devons changer les mentalités des jeunes, les encourager à s'engager dans l'agriculture. Sinon, si cela ne change pas, l'utilisation de ces technologies sera nulle.
Selon Boniface Akuku, expert en information de la communication à Nairobi, c'est également un moyen pour encourager les jeunes chômeurs kényans à s'intéresser à l'agriculture.
L'agriculture africaine doit être transformée et il n'y a pas plusieurs façons d'y parvenir. Même si nous ne la transformons pas par la technologie, le climat, lui, a déjà commencé.
Les solutions mobiles fonctionnent bien au Kenya, car les informations peuvent atteindre des millions de personnes. Pour Wanja, 3500 agriculteurs utilisent déjà son application.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, chers amis fidèles de la VOA, c'est ici que nous allons clore le monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissa. Dan Crafton a assuré la partie technique.
Merci à vous de nous avoir suivis. C'était Jacques Aristide et Raissa Girondin à la présentation. Restez connectés sur notre page Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme. écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos. À Washington.